sur d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue. La Méditerranée est-elle devenue un tombeau pour les dizaines de milliers de migrants qui fuient la misère et la guerre, selon les mots même du porte-parole du gouvernement grec? Depuis quelques jours, les tragédies se succèdent. L'Italie et la Grèce doivent faire face à un net afflux de boat people, près de 2000 morts depuis le début de l'année. En tout, 10 000 personnes auraient débarqué sur les côtes grecques depuis janvier. C'est trois fois plus qu'à la même période l'an dernier. Beaucoup trop pour la Grèce, souvent montrée du doigt pour sa politique d'accueil très dure. Aujourd'hui, le gouvernement veut tout changer. Un vrai défi dans un pays qui part de loin. Charlotte Stiebnard.
Avec son sweatshirt rouge et ses baskets, Mohamed Chabir, 38 ans, ne fait pas son âge. Il y a un peu plus de 3 ans, il a quitté son pays, le Pakistan, car sa famille avait été expropriée par de riches propriétaires terriens. Il est arrivé en Grèce où se trouvait son frère. Alors qu'il travaillait déjà dans une ferme, sa demande d'asile a été rejetée. Sans papier, il s'est alors fait arrêter par la police. Il a atterri dans un centre de rétention, première étape avant l'expulsion du territoire. Il raconte dans quelles conditions il a été détenu à Amygdalesa, au nord d'Athènes.
Quand on est arrivé, on logeait la plupart du temps dans des containers et tout autour du centre, il y avait des grillages, comme dans une prison. Dès que la nuit tombait, on pouvait voir les rats sortir. Sous le gouvernement de l'ancien Premier ministre conservateur Anthony Samaras, il n'y avait pas assez de nourriture, pas de médecin. Quand on était malade, la police disait « on n'a pas de docteur, c'est comme ça ». Quand on avait besoin d'un antidouleur, il disait encore « on n'a pas de médicaments ».
Mohamed Chabir a passé 9 mois derrière ses grilles avant d'être libéré. Créé il y a 3 ans sous le gouvernement conservateur pour contrer la pression de l'extrême droite, ces centres sont aujourd'hui au nombre de 7 répartis sur le territoire grec. Surpeuplement, 5000 personnes comptabilisées début février. Conditions déplorables de détention et surtout période trop longue, 1 an et demi selon la loi contre 45 jours maximum en France. La Grèce a été condamnée à plusieurs reprises pour le traitement dégradant qu'elle réservait à ses migrants. En février, un Pakistanais s'est suicidé à Amygdalesa. Il venait d'être emprisonné à nouveau après une courte libération. Le gouvernement de la gauche radicale a alors décidé de laisser sortir une partie des migrants, ceux qui avaient dépassé la limite de séjour ramenée à 6 mois et les demandeurs d'asile. Mohamed Chabir a alors pu retrouver sa liberté sous certaines conditions.
En même temps que moi, ils ont libéré entre 18 et 20 personnes. Ils nous ont dit de pointer à la police 2 fois par mois. Certains ont reçu des avis leur demandant de quitter le territoire dans un délai d'un mois et d'autres ont eu 6 mois. Quand ces premiers papiers auront expiré, alors on pourra demander 3 mois supplémentaires.
Sur la place de la Constitution à Athènes, une grosse centaine de migrants se sont rassemblés fin mars. Ils demandent des papiers et la fermeture des centres de rétention. Parmi les manifestants, Ayman Nour, un Éthiopien arrivé il y a 5 ans. Après le rejet de sa demande d'asile, il a été emprisonné dans différents centres de rétention en Grèce. Il ne comprend pas comment fonctionne le système.
Vous savez, moi, je suis sorti, mais il y a toujours des gens qui souffrent dans ces camps. Il y en a encore un qui est mort récemment. Et ok, ce qui se passe à l'intérieur du camp, c'est une chose. Mais imaginez, emprisonner quelqu'un parce qu'il n'a pas de papier et après 18 mois, le laisser sortir juste pour 3 ou 4 mois et l'attraper à nouveau, ça sert à quoi?
Pour Ayman Nour, le cœur du problème, c'est la difficulté d'obtenir des papiers. Un nouveau système d'asile a été créé il y a presque 2 ans. Aujourd'hui, presque un quart des demandeurs obtiennent l'asile. Avant, il n'était même pas 1%. La procédure s'est donc améliorée, mais les files d'attente sont encore très longues et pour ceux qui n'obtiennent pas l'asile, le risque d'atterrir en centre de rétention avant expulsion est encore grand. Seuls les Syriens ne sont pas enfermés dans ces centres car même sans papier, ils ne peuvent de toute façon pas être légalement renvoyés vers la Syrie, un pays en guerre. Pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le gouvernement d'Alexis Tsipras est sur la bonne voie. Pour la première fois, un ministère de l'immigration a été créé. Le centre de rétention d'Amygdalesa pourrait être fermé. Les autres seront transformés en centres d'accueil ouverts. Daphne Kapetanaki est en charge des questions d'hébergement au Haut Commissariat. Elle soutient cette idée, mais elle lui semble difficile à réaliser.
C'est très compliqué car les centres de détention font partie des compétences de la police, les lieux leur appartiennent et la Grèce bénéficie de fonds européens spécifiques pour ces centres. Transformer les centres de détention en centres d'accueil ouverts, ce n'est pas évident. Les autorités parlent maintenant d'en ouvrir de nouveaux.
Après les premières libérations de migrants, l'opposition de droite a accusé le gouvernement de les laisser envahir les rues d'Athènes. Celui-ci a simplement rétorqué qu'il applique la loi. Mais il est vrai que pour l'instant, le risque d'atterrir dans la rue est grand. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. La Grèce n'a actuellement que 1000 places dans des centres d'accueil et elles sont réservées aux demandeurs d'asile et aux mineurs non accompagnés. Pour Zafne Kapetanaki, ces libérations étaient cependant nécessaires.
Le problème du manque d'hébergement ne peut pas être utilisé comme un prétexte pour mettre en place une politique de détention automatique. Bien entendu, il y a des répercussions sociales concernant les libérations. Il faut que les autorités grecques commencent à organiser et à planifier de façon stratégique les problèmes de logement pour prévenir l'agitation sociale et le mécontentement parmi la population grecque, comme ça l'a été dans le passé.
Récemment, le gouvernement a annoncé qu'il créerait des centres d'accueil spécialement pour les nouveaux arrivants. Mais il ne s'est pas exprimé depuis sur les centres de rétention. Un sujet sensible, explique la police, qui a refusé de fournir des chiffres sur le nombre de libérations.
Pour certains migrants, heureusement, l'Europe est devenue le continent de tous les possibles. C'est ce qui est arrivé à Maria Marte. À 37 ans, cette Dominicaine est chef dans le restaurant Casa Allard à Madrid, avec 13 personnes sous ses ordres. Un des restaurants les plus cotés qui vient de recevoir 2 étoiles au guide Michelin. Itinéraire d'une chef singulière avec François Musso.
Elle semblait condamnée à balayer la salle de restaurant et à récurer les plats toute sa vie. Elle est finalement devenue le chef, ou la chef comme on voudra, à la mode. Elle, c'est au départ une immigrée issue de la République dominicaine, débarquée à Madrid il y a une quinzaine d'années. Elle, c'est la dernière d'une fratrie pauvre de 8 membres qui déjà considérait son arrivée à Madrid comme une prouesse. Elle, Maria Marte, a cependant toujours cru en sa bonne étoile, mais sans jamais se satisfaire de son sort de clandestine, reléguée dans les restaurants aux tâches les plus ingrates. Dans le restaurant Casa Gallard, où elle fait le ménage, on accepte un jour qu'elle se mette au fourneau, à la condition qu'elle poursuive ses tâches ménagères. Une fois qu'elle débarque aux cuisines, la voilà qui prend des initiatives, qui propose des recettes ou des produits de son terroir, de sa terre, la République dominicaine, en particulier le sancocho, cette soupe de viande et de légumes. Elle se montre si inventive et créative que le chef du grand restaurant, le jour de son départ en 2013, la désigne pour lui succéder. C'est alors la consécration de Maria Marte qui améliore encore la carte, invente des plats exotiques, mêle cuisine espagnole et saveurs des Caraïbes. Aujourd'hui, la clientèle la plus exigeante se presse pour déguster les trouvailles culinaires d'une ancienne immigrée sans papier. Back in the US, back in the US, back in the USSR.
Et justement, c'est la question en Lituanie. Faut-il déboulonner les statues du pont vert à Vilnius? Ces 4 statues érigées en 52, représentant les 4 piliers de la société soviétique, sont au cœur des débats. Dans le contexte du conflit ukrainien, d'une propagande russe toujours plus agressive, ces édifices, situés sur un pont passant de la capitale, cristallisent de nouveau les passions et les réactions sont épidermiques. Leur sort est toujours incertain, alors que leur état se dégrade. Reportage Marielle Vituro.
La circulation sur le pont vert ne s'arrête jamais. Point névralgique de Vilnius, il permet de relier le cœur historique de la ville au quartier résidentiel. Reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, le pont a récupéré sa couleur verte d'origine. Mais à chacune de ses extrémités, 4 statues, des allégories de la société soviétique, ont été érigées. Alfred Assumantas, du département du patrimoine.
Donc, nous sommes en plein centre de Vilnius et nous sommes sur le pont vert. Et nous avons 4 ensemble des sculptures, dont une représente l'industrie et la construction. La deuxième représente l'agriculture. La troisième à la garde de la paix. Et finalement, la quatrième, la jeunesse des sciences.
Ce rare exemple d'architecture stalinienne dans Vilnius déclenche aujourd'hui les passions. Plusieurs pétitions, des appels à déboulonner les statues ont été lancées. Certaines ont collecté près de 5000 signatures. Agnė Kanauskaitė dirige la Ligue des jeunes conservateurs. Elle milite pour que ces statues disparaissent.
Les événements en Ukraine et la propagande russe, mais aussi les 25 ans du 11 mars, le jour où la Lituanie a déclaré son indépendance, nous ont motivés pour demander le retrait de ces sculptures. Elles sont le symbole par excellence d'un régime totalitaire. Notre nation a terriblement souffert de l'occupation soviétique. Plus d'un million de personnes ont été déportées. Des Lituaniens revenus de Sibérie ou encore leurs familles empruntent régulièrement ce pont et pour eux, c'est une humiliation permanente de les voir.
Les monuments représentant des personnalités politiques soviétiques ont tous été déboulonnés très rapidement après le rétablissement de l'indépendance de la Lituanie en 1991. Ils restent entassés dans des entrepôts pendant une décennie jusqu'à ce qu'ils trouvent une nouvelle maison, les précisions d'Alfred Asiomantas.
C'est un entrepreneur qui a proposé les accueillir et les exposer et les restaurer. Pratiquement la plus grande partie de la collection d'éléments de cette époque, là, se trouve maintenant au sud de Lituanie, à Druskininkai, où il y a une grande exposition des sculptures de l'époque soviétique et des peintures aussi.
Faisant partie de la liste des monuments protégés depuis les années 70, les statues du Pont Vert sont, elles, restées intactes. Des plaques en lituanien et en anglais ont été apposées pour expliquer le contexte historique de leur érection. Le contexte géopolitique actuel et un récent décret ministériel sur la protection du patrimoine possédant des symboles d'un régime d'occupation ont relancé le débat sur leur devenir. La directrice du département du patrimoine s'est prononcée pour leur retrait. Dans une tribune très politique, elle a dénoncé l'occupation mentale que les Lituaniens subissent encore avec la présence de ces statues. Mais la commission d'experts a émis un avis péremptoire inverse. Maria Drėmaitė, historienne spécialiste de l'époque soviétique, fait partie de cette commission.
Ces statues font partie d'un héritage historique dont il ne faut pas avoir peur. Elles ont été réalisées par 7 artistes lituaniens. C'est aussi l'histoire de l'art du pays. De ce point de vue, elles ont pour moi le droit d'exister. De toute façon, l'art à cette époque était très politisé. Et à cause de ça, elles ont une valeur éducative très forte.
Finalement, la conférence internationale sur les statues du Pont Vert qui devait se dérouler à l'automne dernier s'est transformée en une demi-journée d'études 6 mois plus tard où seuls des experts locaux se sont prononcés. L'universitaire Assad Chepaïtiané, spécialiste du patrimoine et de la mémoire, déplore amèrement ce contexte tendu.
Avec le temps, les recherches sur notre passé soviétique se multiplient. Mais il existe encore un véritable fossé entre le discours des intellectuels et l'opinion publique, influencé par certains propagandistes. Résultat, si on veut plutôt conserver ces sculptures, on passe pour un nostalgique de l'époque soviétique ou un agent russe. Pas de place pour les nuances. Et en allant au bout de cette logique, si tout le monde est d'accord pour dire que ces statues sont le symbole de l'occupation soviétique, une fois déboulonnées, ne va-t-on pas chercher à nier ce fait historique ?
La proposition d'un architecte de mettre ces statues en cage, une manière de les rendre inoffensives, a été rejetée par la mairie. Récemment, le débat s'est focalisé autour de leur restauration. Une nouvelle commission d'experts en formation devra de nouveau se prononcer à ce sujet. La mémoire et sa transmission deviennent des enjeux politiques. Une loi sur la mémoire historique nationale est actuellement débattue au Parlement.
Les jeunes sont...
La chronique. Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors on le sait, hein, l'Europe vieillit, mais sa jeunesse a quand même encore hein, de beaux jours devant elle. À force d'évoquer les chiffres du chômage, quand on parle des 15-29 ans, 90 millions de jeunes quand même, on en oublie presque que comme leurs parents avant eux, ils construisent leur avenir.
Et oui, c'est une étude de l'Institut statistique européen bien connu, Eurostat, qui nous permet d'en savoir un peu plus sur cette jeunesse. Premier élément, elle est moins nombreuse que ses aînés, 15 millions de personnes en moins sur la même classe d'âge en 20 ans.
Alors voilà la première information. Et qu'apprend-on encore en lisant cette étude, Eve ?
Sans surprise que les jeunes Européens sont bien plus connectés que leurs aînés, et cela sur tout le territoire. Que cela soit pour effectuer des démarches administratives, approfondir des connaissances sur un sujet ou communiquer avec leurs pairs, on peut dire que les 15-29 ans ont un réflexe Internet qui peut, à moyen terme, faire évoluer les modes de vie du continent entier. Cependant, tous ne sont pas même logés à la même enseigne, tous n'ont pas le même rapport à cet outil. C'est dans les pays baltes que les jeunes sont les plus connectés, avec aussi le Luxembourg et le Danemark, et en Roumanie, Bulgarie ou encore en Espagne, qu'ils sont le moins accros ou le moins équipés.
Autre constat, les jeunes d'aujourd'hui n'envisagent pas de s'impliquer personnellement en politique.
Exactement, seuls 19% des personnes interrogées souhaitent se présenter un jour à une élection. Pire, 1 sur 2 seulement a exercé son droit de vote ces 3 dernières années. Des nouvelles plutôt inquiétantes concernant l'avenir de nos démocraties.
Alors concernant maintenant le départ du foyer familial, que révèlent les statistiques, Eve ?
On le sait traditionnellement, c'est au nord que les jeunes quittent le plus vite le nid, entre 19 et 21 ans pour la Suède et la Finlande. Pour la France et l'Allemagne, il faudra plutôt attendre la veille de ses 24 ans. À l'autre bout du tableau, chez les jeunes trentenaires qui squattent encore chez papa-maman, on retrouve les Croates, les Slovaques et les Maltais, mais aussi bien sûr les Italiens.
Alors, l'étude se penche aussi sur leur manière de vivre en couple.
On savait que les jeunes se mariaient moins, globalement, que leurs aînés. On sait maintenant qu'ils sont plus nombreux sur le territoire européen à vivre en concubinage, sans document officiel, plutôt que donc mariés ou paxés. Même si dans ce domaine, la différence nord-sud est encore particulièrement marquée. À Chypre, Malte, en Croatie, en Italie ou en Grèce, ou encore en Roumanie, la proportion de couples vivant ensemble sans être mariés est infime, moins de 5%, alors qu'elle explose en Finlande, plus de 30%.
Et pour ce qui est de faire des enfants ?
Là encore, c'est un phénomène qui semble installé. L'âge du premier enfant en Europe ne cesse d'être repoussé depuis une trentaine d'années. En 2012, selon l'étude, cet âge dépassait les 30 ans dans seulement 2 pays, le Royaume-Uni et l'Espagne. Les plus jeunes mères se trouvent, elles, en Bulgarie et en Roumanie, autour de 25 ans environ pour l'âge du premier enfant. Mais en réalité, ces chiffres ne prennent pas en compte les disparités nationales très fortes, comme par exemple le niveau d'études ou le lieu de résidence, autant de paramètres qui jouent énormément.
Merci Eve Minot, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Direction Vienne, où l'art sans concession des actionnistes s'expose au musée d'art contemporain. Ce musée revient sur ce mouvement extrême de l'art viennois des années 60-70, où les artistes ont repoussé les limites en employant excréments ou viscères comme matière artistique, ou en multipliant les performances provocatrices, des œuvres choquantes mais aussi libératrices pour les enfants de la guerre. Nathanaël Vitran est allé y faire un tour pour nous.
Tout a commencé par un piano réduit en miettes sur la scène d'un cabaret viennois. Dans l'Autriche d'après-guerre, un groupe d'artistes décide que décrire la réalité ne suffit plus. Désormais, il faut la vivre sur scène, en faire un moment authentique. Leur approche de l'art est radicale, et quoi de mieux pour bousculer l'ordre bourgeois que de massacrer un grand piano à coups de hache ? En parallèle, un autre groupe d'artistes autrichiens fait son apparition. Eux s'intéressent au corps comme médium, comme instrument de leur art. Tantôt le corps est canevas sur lequel on peint, tantôt il est pinceau avec lequel on crée sans intermédiaire. En guise de peinture, tout ce qui marque, tache et laisse une trace est permis. On les appelle les actionnistes. L'un d'eux déclare « Mon corps est l'intention, mon corps est l'événement, mon corps est le résultat ».« Mon corps est l'événement », la formule a donné son sous-titre à l'exposition d'aujourd'hui. Les actionnistes se produisent parfois en public, des représentations souvent interrompues par les forces de l'ordre, garantes de la décence publique. Mais dans l'intimité des ateliers, ils peuvent aller beaucoup plus loin, produisant en groupe des œuvres à la limite de la pornographie ou de la scatologie. Dans une société qui a jeté un voile pudique sur les crimes nazis, ces enfants de la guerre voient en l'art une forme de catharsis. Dans une troisième salle, les héritiers de ce mouvement ne s'intéressent plus seulement au corps comme instrument, mais comme objet d'analyse. Au milieu des artistes autrichiens, on trouve également les œuvres de noms peut-être mieux connus du grand public, comme Yoko Ono ou Paul McCartney. 20 ans après l'horreur de l'Holocauste et en pleine guerre du Vietnam, l'art est devenu une forme de contestation. Certains artistes s'automutilent. Contrairement à la décennie précédente, il n'est plus question de faire semblant en se versant de la peinture rouge sur le corps. Günther Bruce s'ouvre le crâne et se flagelle jusqu'au sang. Ce sera sa dernière performance. La seule étape qui reste, explique-t-il, ce serait le suicide. Les actionnistes viennois et leurs héritiers choquent, mais jamais gratuitement. Ils font littéralement barrage de leur corps à une société où ils ne se reconnaissent plus. Et certains continuent.
Accent d'Europe, c'est déjà fini à la réalisation. Françoise Grelot, retrouvez-nous sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute dans quelques secondes, les infos.